quand la recherche regarde son propre impact climatique, la une de la science en parle,
oui.
Axel Villard.
Et ça donne le collectif Labo 1.5 en référence au 1,5 degré de réchauffement préconisé par le GIEC. Dans une tribune parue dans Le Monde mardi, ils invitent le monde académique à les rejoindre. De nombreux chercheurs ont déjà répondu pour réfléchir ensemble et construire une recherche qui réduit son impact environnemental et ses émissions de carbone. Nous recevons aujourd'hui les deux fondateurs du mouvement. Tamara Benhari, bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Bernet, en direct des locaux de France Bleu à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Alors Tamara Benhari, vous êtes chargée de recherche à l'INRA en agronomie globale et Olivier Bernet, vous êtes astrophysicien au CNRS à Toulouse. Alors rien ne vous destinait à première vue à discuter ensemble de ces enjeux, le climat et la recherche, l'impact sur l'environnement. Comment est né le collectif Labo 1.5 ?
Eh bien, c'est né de réflexions, de discussions avec les collègues sur la question du sens. Quel sens on a à faire ce métier quand, d'une part, les résultats qu'on produit ne sont que très peu utilisés pour faire des changements concrets dans la société et d'autre part, quand on ne s'applique pas à nous-mêmes les impératifs de transition.
Donc les chercheurs ont participé à produire les résultats qui font prendre conscience au monde entier qu'il y a un problème. Ils se doivent de réfléchir eux aussi maintenant à l'impact.
Exactement.
Olivier Bernet, qu'est-ce qui vous a motivé alors dans la création de ce collectif ?
C'est ce que disait Tamara, il y a cette question du sens et ce qu'on a réalisé en discutant de cette question avec les collègues autour de nous, très vite, c'est qu'on était assez nombreux à se poser cette question et ça appelait à savoir combien on était réellement et si éventuellement on pouvait faire quelque chose ensemble collectivement. Et donc on a créé ce collectif avec une volonté très simple au départ, c'est celle de savoir combien on était à se poser cette question et si ensemble on allait pouvoir faire quelque chose.
Alors vous êtes nombreux ?
Alors actuellement, donc le collectif a été lancé seulement hier officiellement et on a déjà 400 collègues qui nous ont contactés.
C'est pas mal. Tamara Benhari, est-ce qu'il existe des chiffres qui permettent de mesurer le poids spécifique de la recherche dans le bilan carbone de notre pays ?
Alors en effet, il y a une ligne dans la comptabilité nationale sur la recherche. On pourrait faire les calculs, on va les faire d'ailleurs dans le collectif.
Ouais. Ça doit être très complexe à faire, non, quand même ? Parce qu'il faut prendre plein de paramètres en compte.
Bah, il y a les émissions directes, il y a les émissions indirectes. Donc, on peut définir un périmètre, faire un calcul et renseigner les incertitudes. Mm-hmm. Mais le poids de la recherche dans ce bilan total, comparé aux autres secteurs, étant donné qu'on pèse très très peu en termes de PIB, sera forcément petit. Donc, pour nous, la motivation, elle est plus symbolique mm-hmm. aussi. Notre exemplarité et la crédibilité qu'on peut gagner à mettre en cohérence nos pratiques avec les résultats de la recherche.
Donc Olivier Bernet, il y a des réflexions à mener puisque c'est la première chose à faire selon vous, c'est ce que vous proposez à ceux qui rejoignent le collectif, c'est quantifier et chiffrer cet impact.
Oui, mais effectivement, il y a une partie chiffrage qui sera importante parce que c'est quand même toujours important, en particulier en tant que scientifique, de savoir de quoi on parle. Mais en réalité, c'est ce que Tamara disait. Peut-être le plus important, c'est de ce lien de confiance qu'il y a entre science et société. Il repose en partie sur notre capacité à être cohérent et à être exemplaire, c'est-à-dire quand on dit attention, il y a un risque, aussi transformer nos pratiques, y compris dans la recherche, pour que on prenne en compte ce risque.
Alors Olivier Bernet, quelles sont les facettes de votre métier ou du fonctionnement d'un labo pour lesquelles des efforts sont possibles rapidement selon vous ?
Alors un des postes d'émission qui est assez évident, c'est celui des transports, en particulier des transports associés aux missions scientifiques, que ce soit des missions de terrain ou que ce soit des missions pour aller à des conférences internationales ou européennes. Donc il y a une part importante, ça c'est certain, des émissions associées à ces moyens de transport, en particulier l'avion, qui sont, on pense, qu'on doit pouvoir limiter de manière assez facile.
Ouais, Axel Kahn, vous allez mettre tout le monde à la marche alors finalement, non ?
Ah ouais, c'est une solution merveilleuse. Mais effectivement, quand on va faire une conférence internationale, un congrès à Sao Paulo et que l'on est toulousain ou parisien, la marche va prendre beaucoup de temps, il n'en resterait pas beaucoup pour faire de la recherche. Et donc il faudra trouver un compromis.
Ouais. Tamara Benhari, vous avez un chiffre qui montre que les chercheurs voyagent plus que les autres professions ?
Alors les chercheurs voyagent beaucoup et au sein du collectif, donc de façon spontanée, il y a des chercheurs qui ont commencé à faire les calculs. Ouais. Comme je vous disais, il y a des grandes incertitudes qui sont associées à ces calculs, mais ce qu'on sait, c'est que les émissions de CO2 d'un scientifique en moyenne sont supérieures à celles rapportées en français et que la plupart de ces émissions sont liées au transport.
Est-ce qu'il existe déjà des labos en France qui ont mis en place des mesures concrètes pour faire baisser leur impact carbone, leur impact sur l'environnement ?
Il y a des réflexions qui sont menées, mais des mesures à l'échelle de labo, je ne sais pas, pas encore. Mais ça sera le cas rapidement, je
Catherine
pense.
Catherine Bourguin, vous allez réfléchir à cette question ou pas ? Ça vous intéresse ?
Ah, complètement, moi déjà...
L'éthique environnementale, on pourrait presque dire
complètement, c'est un enjeu
ça, hein.
Fondamental. J'ai deux choses, ça fait effectivement plusieurs années que j'ai entamé moi-même cette réflexion sur faut-il partir pour deux jours à Sao Paulo, finalement ? Est-ce que c'est si nécessaire que ça ? Et de fait, je me suis rendu compte que je pouvais travailler dessus, j'ai diminué mes trajets. Et la deuxième réflexion, je pense aussi que ce travail-là doit nous mener en tant que chercheurs à réfléchir sur la responsabilité des recherches auxquelles on participe. Quelle est la contribution de cette recherche ? En quoi cette recherche produit des technologies potentiellement ou des formes d'organisation collective qui sont elles-mêmes consommatrices de carbone ?
Olivier Bernet, pour terminer, quel serait l'avenir idéal pour vous, pour le collectif qui a un jour, on le rappelle, comment est-ce que vous imaginez la suite ?
Alors, la suite, je suis désolé, je vais être très pragmatique pour commencer, mais la suite, c'est simplement déjà de mettre les gens en réseau, que les collègues puissent discuter entre eux, échanger hein, des informations pour essayer d'avancer sur cette question. Et finalement, ça, c'est aussi, derrière, il y a l'horizon de créer une nouvelle forme de recherche. Axel Klein disait tout à l'heure, et comment on va faire pour aller à Sao Paulo si on doit y aller à pied, il ne restera plus beaucoup de temps pour la recherche. Je pense que ça appelle aussi à une nouvelle définition de ce qui est le fonctionnement de la recherche scientifique. Et donc cet horizon-là, on va essayer de le définir ensemble et collectivement.
Et pour ça, il faut qu'on vous rejoigne. Donc on va donner le site pour vous trouver. C'est labo avec un S, un point en toutes lettres, 5 et point org.
Et parmi les signataires, il y a Valérie Masson-Delmotte, hein, évidemment.
Tout à fait. Et Céline Guivache, qui fait partie du Haut Conseil.
Ça paraît logique de la retrouver dans les signataires. Merci beaucoup, en tout cas, tous les deux. Bravo pour votre initiative et l'élan que vous allez donner. En tout cas, on l'espère. Axel, merci. À demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le nombre de femmes qui vivent à plus de 45 minutes d'une maternité a doublé en France en 20 ans. Ce chiffre nous vient d'une enquête publiée par nos confrères du journal Le Monde, réalisée par le géographe Emmanuel Vigneron. Alors que démarrent à l'Assemblée les débats autour des hôpitaux de proximité, un des volets de la loi santé, on apprend que la France a perdu 40% de ses maternités, donc en 20 ans. L'auteur résume ses travaux ainsi. Il y a des endroits où l'éloignement devient trop grand pour être supportable, ce qui condamne les territoires à une mort lente. Une enquête à lire sur lemonde.fr. En 2050, l'hiver australien ne sera plus. Une équipe de scientifiques a voulu construire un outil prospectif et grand public pour prédire le climat de différentes régions du continent australien dans 30 ans. Et en compilant les résultats obtenus avec le Bureau national de météorologie, ils se sont rendus compte que le cours des saisons connues actuellement serait complètement bouleversé. À l'inverse, les étés seront beaucoup plus longs et beaucoup plus chauds, avec des températures qui culmineront au-dessus des 40 degrés pendant de longues périodes. Et puis pour terminer, un criquet qui aime la lave. L'année dernière, le volcan Kilauea entré en éruption et déversé d'énormes quantités de lave sur l'est de l'île d'Hawaï. Les coulées à peine refroidies, voici la vie qui revient. Et selon les biologistes locaux, eh bien c'est un tout petit criquet jaune transparent nommé Coco Nemobius ou Onini Nene Pele en hawaïen qui est le premier à revenir sur les lieux. La raison pour laquelle cet insecte aime la lave tiède et comment il survit dessus sont encore très mal connues, mais les études sont en cours et c'est ce que nous promettent en tout cas les scientifiques sur place.